Je pense que oui. Le personnage qui a été le plus caricaturé, c'est Paul Harris Pack, qui est vraiment, à cause de sa position otanienne et socialiste droitière, qui est vraiment la cible principale donc des caricaturistes communistes, notamment Didier Geluck. Il y a aussi des dessins concernant Van der Velde, hein, qui remontent à la période d'avant-guerre, avec le grand reproche de cette collaboration du Parti ouvrier belge, ancêtre du PS, avec l'establishment politique et bourgeois, diront. Venu en Belgique. Ça, ce sont des caricatures assez fréquentes. Il y a aussi quelques caricatures, notamment concernant la royauté. Hein, il y a une caricature extrêmement rare qui attaque la reine Astrid, hein, cette personne si populaire, je dirais si populaire après sa mort, mais de son vivant. Donc, il y a une caricature qui représente Léopold III en train de signer des arrêtés qui diminuent les allocations de chômage, alors que son épouse, la reine Astrid, se livre à des œuvres de charité pour aider les pauvres.
Oui, alors le trône, évidemment, c'est un sujet en or, si j'ose dire, Jules Pirlo, et notamment au moment de l'affaire royale, donc en 1950, hein, au moment du référendum, où on voit pas mal de dessins qui attaquent directement Léopold III, même aussi Baudouin et Fabiola, mais ça, c'est un petit peu plus tardif. Alors ça, c'est des sujets qu'on ne laisse pas passer.
Bien sûr. Donc, il y a notamment une bande dessinée complète qui était destinée à un journal de la jeunesse populaire, qui est l'ancêtre de la jeunesse communiste, quoi, hein, qui est consacrée à la vie de Julien Lahaut, par exemple, hein, et qui se termine par son assassinat. Il y a aussi donc une caricature du roi Baudouin jeune qui trouve qu'il ne gagne pas assez, il réclame un peu plus de sous. Hein, voilà. Par contre, on n'a rien trouvé de méchant à l'égard par exemple, de Fabiola. On n'a rien trouvé du fait qu'elle était quand même issue d'un milieu de droite espagnole. C'est plutôt sympathique. Et il faut dire aussi qu'il n'y a rien contre la reine Elisabeth qui avait, elle, des sympathies assez évidentes pour l'URSS, la Chine populaire et même le Parti communiste en Belgique.
Un autre sujet de prédilection, c'est l'Église, l'Église catholique en particulier. Alors là, évidemment, bon, ben, il y a tout le décorum qui est quand même très attirant pour un caricaturiste. C'est aussi un des sujets principaux.
Je ne dirais pas un sujet principal, dans la mesure où il n'y a pas systématiquement une attaque contre l'Église, mais il y a des moments comme ça. Il y a des moments, notamment réplique au cardinal Van Rooij, hein, avec grande campagne anticommuniste dans les années 30. Il y a, par exemple, réplique à l'Église catholique mexicaine qui provoque quasi une guerre civile pour défendre ses privilèges au Mexique. Et puis, il y a Jean-Paul II. Alors évidemment, l'anticommunisme de Jean-Paul II va entraîner une réplique qui est de nombreuses attaques contre Jean-Paul II, notamment quand il va prêcher contre la théologie de la libération en Amérique latine, quand il va rendre visite à Mobutu, à Kinshasa. Donc là, c'est assez fréquent.
À propos de Mobutu, il y a quand même quelques dictateurs de droite, Mobutu, Pinochet, alors peut-être d'autres également, qui sont aussi des cibles faciles, mais on cible effectivement des dictateurs de droite. On ne se hasarde pas à croquer un Castro, par exemple, ou d'autres gens de ce bord-là.
Dans la presse communiste, je dirais de orthodoxe, hein, non. Par contre, c'est vrai que vous pouvez avoir dans la presse maoïste des caricatures, par exemple, de Brejnev, dans la presse trotskiste, des caricatures de Staline. Hein, ça, c'était une réalité, ça. Hein. Mais dans la presse communiste, je dirais de tendance orthodoxe, non.
Les drames sociaux, Jules Pirlo, sont aussi une source. Alors c'est moins drôle, mais par contre ça peut être plus terrible et plus piquant également. Il y a un certain nombre, bon, d'accidents miniers ou bien alors effectivement de drames sociaux, plus directement politiques ou économiques. Ça aussi, ce sont des veines qu'on exploite allègrement.
Par exemple, concernant les mineurs, on a une caricature de Diluc, hein, donc Didier Geluck, de 1953, qui met le patronat minier en accusation parce qu'il y a une augmentation considérable du nombre d'accidents dans les mines. Et l'année suivante, ben, c'est marginal, quoi. Donc là, c'était vraiment, je dirais pas prémonitoire, mais c'était une analyse vraiment pertinente. Alors, il y a évidemment énormément de choses qui sont consacrées au chômage, hein. Le chômage qui est quand même le drame numéro un. Le manque d'accès au travail pour les jeunes, les politiques de régression en matière scolaire, tout cela, disons, est mis en évidence dans de très, très nombreux dessins.
Alors qu'en est-il de la presse communiste, si ça existe encore en Belgique aujourd'hui, Jules Pirlot? Est-ce qu'on y fait encore des petits Mickey, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose, quelques organes de presse, d'une manière ou d'une autre, qui perpétuent ce courant-là?
Mais je dois dire qu'il y a un drapeau rouge qui existe encore sous une forme plus ou moins mensuelle. Il y a La Gauche, qui est toujours éditée par la tendance trotskiste. Il y a évidemment aujourd'hui Solidaire, qui est édité par le PTB. On peut considérer que ces trois organes de presse actuels sont un peu les héritiers au XXIe siècle de la presse communiste au XXe, qui a eu quand même, je dirais, ses heures de gloire, avec notamment des éditions quotidiennes.